Épilogue. Burick en avait entendu parler dans un conte que racontait sa grand-mère, l'histoire d'une femme douée du vif qui pouvait quitter son corps un jour ou deux, puis y revenir. Burick l'avait narré à Ambre, et Ambre avait mélangé les poisons qui devaient m'amener à l'orée de la mort. Ils me dirent que je n'étais pas mort, que mon corps s'était seulement ralenti au point d'avoir l'apparence d'un cadavre. Je ne le crois pas. Je vécus donc à nouveau dans le corps d'un homme, bien qu'il me fallût plusieurs jours pour me souvenir d'avoir été un homme. Et parfois encore, j'en doute. Je ne repris pas le cours de mon existence. Ma vie sous le nom de Fitz Chevalerie gisait en décombres fumants derrière moi. Seuls Burick et Ambre savaient que je n'avais pas péri. Parmi les gens qui m'avaient connu, rares étaient ceux qui gardaient bon souvenir de moi. Royal m'avait tué, selon toutes les définitions qui comptent pour un homme. Me présenter à ceux qui m'avaient aimé, me tenir devant eux sous mon aspect humain, n'aurait fait que leur apporter la preuve de la magie dont je m'étais souillé. J'avais succombé dans ma cellule un jour ou deux après la dernière rossée dont je me souvenais. Cette nouvelle avait courroucé les ducs, mais Royal disposait d'assez de preuves et de témoins de ma magie du vif pour sauver la face. Je pense que ces gardes échappèrent au fouet en attestant que j'avais attaqué Guillot à l'aide du vif, ce qui expliquait qu'il fût resté si longtemps malade. Ils avaient dû, assurèrent-ils, me frapper à coups redoublés pour rompre l'emprise magique que j'avais sur lui. Devant tant de témoins, les ducs avaient non seulement baissé les bras, mais aussi assisté au couronnement de Royal et accepté le seigneur Brillant comme gouverneur de Castelserre et de toute la côte de Serre. Patience avait supplié qu'on ne brûlât pas mon corps, et qu'on l'enterrât intact. Dame Grâce avait également intercédé en ma faveur, à la grande horreur de son époux. Ces deux femmes, seules, avaient pris ma défense face aux preuves de Royal et de ma souillure. Mais je ne crois pas que ce fût par considération pour elle qu'il accepta. En mourant trop tôt, je l'avais frustré du spectacle de ma pendaison et de ma crémation. Privé de sa vengeance complète, Royal s'était simplement désintéressé de mon sort. Il quitta Castelserre pour gué de négoce, et Patience prit mon cadavre pour l'inhumer. C'est à cette vie que me ramena Burick. Une vie où je n'avais plus rien que mon roi. Les six duchés allaient s'effondrer dans les mois à venir. Les pirates allaient s'emparer de nos meilleurs ports presque à loisir. Nos populations étaient chassées de chez elles ou réduites en esclavage, tandis que les Outriliens prenaient leur place. Mais, à l'instar de mon prince Vérité, je tournai le dos à ces événements et partis pour l'intérieur. Lui était parti pour devenir roi, et moi, j'allais chercher mon roi à la suite de ma reine. Une dure période s'ensuivit. Pourtant, aujourd'hui encore, quand la douleur se fait trop présente, et qu'aucun simple ne parvient à l'apaiser, quand je regarde le corps qui enferme mon esprit, je me rappelle mes jours de loup. Pour moi, ils ne durèrent pas quelques journées, mais toute une saison de vie. Leurs souvenirs me réconfortent et me tentent aussi. Viens, viens chasser avec moi, souffle une voix dans mon cœur. Dépouille-toi de ta souffrance. Que ta vie soit tienne à nouveau. Il est un lieu où tout temps est maintenant, où les choix sont simples et ne sont jamais ceux d'un autre. Les loups n'ont pas de roi. Vous venez d'écouter La Nef du Crépuscule, L'Assassin Royal tome 3, de Robin Hobb, traduit par Arnaud Mounier-Lompré, lu par Sylvain Agaès.